Bonjour et bienvenue en cet avant-dernier jour de l'année 2006. Nous nous sommes interrogés longtemps, croyez-moi, sur le sujet à vous concocter en cette veille de fête. Et comme chaque jour, c'est un peu la fête à grenouille, on s'est dit qu'on n'allait rien changer. Donc, on va interroger quelque chose de très sérieux, c'est-à-dire la notion aujourd'hui, la notion de norme, normalité, normalisation, réglementation, évaluation. Le champ est encore très large et on n'aura sûrement pas le temps en une seule émission de le défricher. Pouvons-nous résister à la surréglementation, aux normalisations à outrance d'un modèle unique et globalisant, j'allais dire totalitaire ? Quel est-il cet être social normé, cet équivalent occidental contemporain du WASP, du White Anglo-Saxon protestant, un salarié rentier qui gagnerait suffisamment non plus pour subvenir à ses seuls besoins, mais pour consommer au-delà, suivant les tendances d'un marché exponentiel ? Quelles sont les réponses, ou plutôt les propositions d'action, de prise de conscience, de réflexion qui s'opposent, qui proposent une alternative à cette globalisation? Pour en parler aujourd'hui avec nous, Julien Ottavi. Bonjour Julien.
Bonjour.
Un habitué désormais de Grenouille, puisqu'on l'a suivi avec toute son équipe durant ce mois de décembre, lors de sa résidence avec APO 33. Donc on va le retrouver tout au long de cette émission pour commenter ces questionnements. Mais pour commencer, et tout de suite, la chronique de Xavier.
Les normes, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Autrement dit, la règle, ma règle, ta règle, sont des règles communes qui mesurent également ce que nous sommes et lissent nos petites différences jusqu'à obtenir une bonne pâte, un appareil sans grumeaux. À première vue, la norme est un processus égalitaire, égalisateur, l'expression même de la justice. La norme, c'est la loi, le règlement, c'est ce qui fait que ça marche droit, qu'on est dans un état de droit, et que ça marche. Ça marche même très bien. Ça marche même trop bien. Ça s'emballe, parfois. Il y a même, d'ailleurs, des normes d'emballage. À y regarder de plus près, ça s'emballe beaucoup. Ça dérape souvent. Ça n'est pas si égalitaire que ça, loin s'en faut. Norma, normae, norma, un mot latin, romain, un mot né de l'Empire, des premiers empires, de ces empires qui n'ont fait qu'empirer. Certes, c'est la loi, c'est du droit, mais c'est aussi la règle d'après laquelle on doit se diriger, dit le dictionnaire. On doit se diriger ou se laisser diriger? Voilà la question, le hic pour rester latin. La norme implique une direction. Sous-entendu, un directeur. Diriger, voilà un verbe ambigu. À la forme réflexive, quand il incorpore un peu de réflexion, un peu de jugeote, se diriger, c'est aller quelque part, c'est être en marche, c'est un mouvement, une évolution. Alors que diriger tout court, sans réflexif ni réflexion, c'est juste donner des ordres. Ça n'est plus régler, mais régir. Ça n'a plus à voir avec la règle, mais avec le roi, le règne, le puissant, le dirigeant. Passent les empires, les royaumes. Au royaume de France, l'économie longtemps fut rurale. Et au XVIIIe siècle, dans cette économie rurale, on précise le sens du mot « norme », qui est désormais ceci. Formule servant à établir la ration particulière à chaque animal. On est passé du directeur au souverain, qui, éclairé, sait ce qui est bon pour son peuple, qui lui donne sa ration de foin, de grain, qui transforme l'état en étable où tous viennent lui manger dans la main. Ruminer, grogner, couiner, veau, vache, cochon, couver, vous n'êtes que des animaux qui la ferment quand le Seigneur est sur ses terres et vous explique qu'être normal, c'est être normé. Ainsi soit-il. Repassent les empires, repassent les royaumes, incidemment quelques révolutions, et adviennent le temps de l'industrie. Voilà que la norme se sent pousser des ailes. Elle devient normalisation. Normalisation, ensemble de règles techniques codifiées relatives aux produits et tendantes à 1. Améliorer le prix de revient. 2. Faciliter l'approvisionnement des industries. 3. Augmenter la qualité et la quantité des productions. 4. Simplifier les transactions. 5. Donner des garanties aux acheteurs. Elle y parvient en spécifiant, unifiant et simplifiant les fabrications. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, on ne dirige plus, on spécifie. On ne parle plus d'unité, mais d'unification. Et surtout, on simplifie. La normalisation, c'est simple. Enfin, censément. Parce qu'en réalité, ça n'est pas si simple. On a des normes fondamentales, des normes réglementaires, des normes administratives, on a des normes énormes, on a d'énormes problèmes. Tout ça se superpose, s'entrecroise, se tricote, se fricote, prend prétexte de la raison, de la rationalisation, pour fabriquer de la démesure et de la déraison. Bienvenue dans l'économie libérale, dont la norme est la dérégulation. Il devient alors normal d'abroger des lois, de contourner des règles, de simplifier à outrance. On n'est plus dans l'union, ni même dans l'unification. On verse dans l'uniformisation. On fabrique des uniformes et, bien sûr, les armes qui vont avec. La norme s'intéresse beaucoup au diamètre des canons. Et puisqu'il est question d'industrie, il est question de progrès, de découverte. Et voilà la raison qui se fait science en entrant dans la chaîne de production. Il existe donc des sciences normatives, nous disent les philosophes, qui sont au nombre de trois. L'esthétique, la logique et la morale. Ce sont elles qui déterminent les règles. Voilà donc à quoi nous devons d'être normaux. Une charte couleur, une pensée réduite au calcul et quelques prêches hypocrites. Tout ça pour ça, serait-on tenté de constater, de poser en bilan de cette normalité où rien de ce qui est normé n'est plus normal. Au fond, de tous ces mots sous-produits de la norme que l'on trouve dans nos dictionnaires, le plus sympathique est l'adverbe, qui trahit ce que cette norme a d'irréel, de paradoxal et de mensonger. Normal ment.
Merci Xavier pour cette nouvelle chronique sémantique sur la norme. Alors Julien Ottavi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu vois, enfin le ton est un petit peu donné par Xavier.
Oui, je vois.
Tu réagirais comment toi déjà à ces premières pistes ?
Il y a beaucoup de choses en fait. Ouais. C'est difficile de réagir comme ça en peu de temps. Je pense qu'il y a énormément de pistes qui sont soulevées dans cette chronique. Après, il faudrait revenir sur certains points plus exactement parce qu'il y a... Je dirais il y a plusieurs tentatives. Bon, il y a un petit côté politique aussi.
Oui.
Et en même temps, il y a une tentative d'expliquer ce que c'est la norme dans ses racines et dans ses prolongements, en termes philosophiques, etc., etc. Donc.
Alors, on va peut-être justement resserrer. C'est-à-dire, quand on a préparé cette émission, quand je t'ai suggéré ce thème, tout de suite, tu m'as parlé de l'étrangéité, de l'étranger. Tu m'as dit, moi, ce qui m'intéresse par rapport à la norme, c'est l'étranger. Peut-être très concrètement, et c'est une façon de présenter APO 33, dire en quoi ça se met en œuvre à un moment donné dans une action qui se veut, qui se fait alternative, ce rapport à l'étranger.
En fait, je pense que ça passe, pour moi, ça passe par différents types d'expérimentation, de mise en place, de travail et d'échange dans des contextes, non habituels, ou de faire émerger des choses qui sont inhabituel dans des contextes où on ne l'attend pas.
Ouais.
Donc c'est aussi ça ce qui nous intéresse dans APO 33. Dans APO 33, en fait, on a plusieurs types d'activités aujourd'hui. Ça va d'activités du type création, expérimentale, etc. Donc le champ des expérimentations, entre guillemets, artistiques, on pourra revenir dessus. Après, il y a tout le domaine de tout ce qui est l'éco-création, le rapport à l'écologie et la création. lier un petit peu ces réflexions. Tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, je dirais plus d'un travail d'approche, bon, colloque, séminaire, philosophique, etc. Et un travail plus politique sur le terrain, sur le terrain du libre, militant, etc., technique aussi de recherche et de développement en fait de ces outils et de cette réappropriation des outils. Et puis une autre partie liée à ça par rapport au libre, mais qui n'est pas forcément visible, c'est une partie politique, et en fait politique dans le champ social, entre guillemets, c'est-à-dire investir tout ce qui est mouvement altermondialiste et participer via le libre et via aussi une expression, une recherche autour de ça, quoi, et une pratique, je dirais, de ces formes-là qui apparaissent, quoi.
Pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde à cet instant, tu parles du libre. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, parce que c'est un des fondements de votre association, de votre travail, de votre action, quelle est cette philosophie, cette culture du libre dont vous vous revendiquez ?
Le libre, en fait, il n'y a pas une définition, ça c'est important de le dire. Je pense que c'est aussi en fonction de... C'est un mouvement ou des mouvements, c'est à réfléchir, c'est en cours en ce moment, donc c'est ça qui est important. Mais l'idée, si tu veux, c'est principalement c'est d'opposer une alternative à tout ce qui est monde propriétaire.
Oui.
Donc c'est parti de l'informatique. Avec en essayant d'ouvrir le code et de partager le code et de construire ce code entre des gens du monde entier, et dans l'idée de pouvoir, si on a des changements à faire ou pouvoir changer quelque chose dans le code, pouvoir le faire librement et le repartager, le redistribuer. Après, aujourd'hui, en 20 ans d'expérience, de travail, etc., de construction de la communauté, il y a beaucoup d'autres domaines qui sont ouverts, de la science en passant par les arts, en passant par différents domaines, l'agriculture, etc., qui sont arrivés sur les mêmes bases, une réflexion dans leur domaine, dans leur champ, similaire, c'est-à-dire comment on peut ouvrir ce qui est les sources, entre guillemets, du coup, et le partager, le distribuer librement sans qu'il n'y ait aucun label, licence, propriété dessus. Donc je pense que c'est vraiment lié à ça. Le libre, c'est vraiment une conception du monde sans propriétarisation, je dirais sans la définition du cadre et à qui appartient ce cadre. On est dans autre chose, quoi.
Et en même temps, ce n'est pas du piratage, hein, faut être clair.
Non,
on n'est pas sur les hackers.
Le piratage participe... Alors, le hacker, c'est différent, parce que le piratage participe du système commercial. Il participe, c'est-à-dire que quand on pirate un logiciel, on fait de la pub pour ce logiciel, et c'est compté dans par exemple, Microsoft a besoin des pirates pour diffuser son travail. C'est-à-dire que, par exemple, le dernier système opératif, Vista, je ne sais pas comment il s'appelle, il a besoin d'être piraté pour être diffusé à un nombre de personnes qui, une fois qu'ils vont s'en servir et prendre les habitudes, vont commencer à acheter des licences en fonction du travail qu'ils font, etc., et vont être tenus à ce mode de travail. Il y a aussi ça. Là, donc, le piratage est aussi un soutien à ça. Et le hacker, c'est différent. En fait, le hacker, c'est celui qui transforme. Donc, on a détourné. Il y a eu un hacking du hacker, en fait. C'est celui qui transforme le code, qui crée du code. Et en fait, ce n'est pas négatif à la base, le hacker. Mais ça a été... Il y a de l'intox qui dit que, justement, c'est celui qui pirate. Après, le piratage, ici en Occident, il n'a pas le même concept, les mêmes idées que dans d'autres pays. Moi, je voyais au Pérou, par exemple, il y a des quartiers entiers de piraterie. Ils sont obligés. C'est-à-dire qu'ils vivent, il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir acheter tout ce qu'on consomme ici. Donc, il y a des quartiers entiers où c'est officiel, de piraterie, de logiciels, de films, et on peut y aller librement comme si on allait au marché. Donc ça, c'est une conception différente de la piraterie, par exemple, juste sur ce point-là.
Et ça crée une nouvelle économie face à...
Oui, tout à fait. Mais le libre, lui, se situe autrement. Mm-hmm. Va vraiment construire quelque chose d'autre en parallèle, en fait. C'est un parallèle en disant, oui, très bien, ça existe. On est plus ou moins obligé, malheureusement, de passer par là. Mais nous, on veut passer par un autre chemin. Et ce chemin-là, on va le définir tous ensemble. Et il va s'auto-définir, entre guillemets.
Alors, c'est bien qu'on insiste sur les mots. Alors, on va continuer dans l'éclaircissement de ces termes de normes, de normalisation, puisque Pascal, cette fois, est allé rencontrer un des responsables de l'ANFOR, A-N-F-O-R, hein, ça ne s'écrit pas pareil. Et c'est donc une des structures qui régit principalement en France.
C'est un peu la structure principale, mais il y en a
c'est
plusieurs.
Une référence. Il y en a plusieurs, ouais. C'est ce qu'on a appris.
Qui a été reconnue d'utilité publique par l'État, donc qui est la structure qui définit les normes sur les produits. Mais de plus en plus, c'est ce qu'on va voir sur les services et sur le management dans les entreprises. C'est comme ça qu'il se développe de plus en plus, en fait. Et Xavier, tout à l'heure, dans sa chronique, parlait de bienvenue dans le libéral. C'est vrai qu'à écouter Stéphane Mathieu, qu'on va entendre tout de suite, qui est responsable régional du Sud-Ouest de l'AFNOR, qui a écrit plusieurs bouquins sur comment manager une entreprise. Enfin, c'est vraiment un winner. voilà, donc définit ça très bien pour dire que voilà, c'est aujourd'hui la normalisation fait partie intégrante de la nouvelle marche mondiale économique. Et justement, il expliquera comment, depuis justement la création de l'OMC, ça, l'AFNOR et la normalisation, c'est beaucoup, beaucoup d'enjeux économiques aujourd'hui. J'ai juste envie de réagir vite par rapport au libre. J'ai vu un reportage il y a très peu de temps de Zaléa TV qui faisait un petit reportage à la fête de l'Huma à Paris et qui allait voir le village du Libre où on voit les trois principaux stands du village du Libre, TF1, Dassault et Thomson. Et justement, ils interrogeaient ça, à savoir pourquoi.
C'était les sponsors.
TF1, Thomson et Lagarde je ne sais plus autre. Donc, étaient présents dans ce village du Libre. Donc, explication de l'organisateur de la fête de l'Huma. Il faut payer ce genre d'événement. Et TF1, Thomson et Lagardère. C'est irréel. Il faut le voir, ce reportage, c'est assez impressionnant, quoi. Et donc, aide des petites entreprises à développer du libre, donc ils ont toute leur place à être là. Et Henri distribue des casquettes, des t-shirts. C'est hallucinant.
On écoute
voilà,
tout
donc,
de suite.
Voilà, donc Stéphane Mathieu, responsable régional de l'AFNOR du Sud-Ouest.
Merci.
L'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. Et on est donc l'organisme en France en charge d'animer le système français de normalisation. Donc c'est une mission qui nous a été confiée par l'État et donc qui consiste à élaborer les fameuses normes NF que les consommateurs connaissent bien. Mais une norme, en fait, c'est avant tout un outil qui permet d'apporter des garanties. Et en fait, la norme, c'est un document où on va caractériser ce qu'est un bon produit avec des niveaux de performance et des critères de qualité, de sécurité, de fiabilité. Pour donner un exemple très concret de normes qui a été publiée voici près de 2 ans, c'est les normes sur la sécurité des piscines. La loi dit qu'il faut sécuriser ces piscines et la norme va plutôt s'intéresser au comment, va s'intéresser aux caractéristiques techniques et aux solutions que le particulier peut mettre en place pour sécuriser sa piscine.
Quels sont les champs d'activité de la normalisation aujourd'hui ?
Alors, effectivement, la normalisation a vraiment, vraiment évolué au cours de ces dernières années. C'est vrai qu'à l'origine et historiquement, la normalisation était très centrée sur les produits et sur l'industrie, on va dire, en sens large. Et en fait, aujourd'hui, la normalisation s'intéresse à bon nombre de sujets de la société au sens large. On peut citer par exemple sur le développement durable, des normes aussi sur le commerce équitable des produits. Dans le secteur social, par exemple, on peut citer des normes sur l'activité des services d'aide à domicile ou alors les maisons de retraite.
Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, depuis la création de l'OMC en 1995, votre activité a beaucoup évolué, voire changé ?
Effectivement, dans le contexte de la mondialisation et de l'internationalisation des échanges, les normes constituent effectivement un outil clé pour justement faciliter les échanges commerciaux, mais aussi scientifiques, techniques, économiques sur la scène internationale. Donc l'OMC reconnaît les normes dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, l'Organisation internationale de normalisation, qui est un peu l'AFNOR international, donc l'ISO fédère près de 151 pays, représentés chacun par leur institut national de normalisation, donc l'AFNOR pour la France. Et aujourd'hui, ben, l'ISO, c'est près de 15 000 normes internationales qui ont été mises au point. Et donc, ces règles, ben, ces normes constituent effectivement là aussi des règles de bonne conduite pour faciliter les échanges, pour faciliter, je dirais, le libre-échange hein, sur la scène internationale.
Alors, la norme française, la norme européenne, internationale, qu'est-ce qui va rester? Comment ça va évoluer tout ça? Est-ce que l'AFNOR, la norme française, va continuer à exister longtemps?
Les normes européennes, lorsqu'elles sont adoptées, sont reprises systématiquement par les pays membres du Comité européen de normalisation, c'est-à-dire les 25 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, la Norvège et la Suisse. Et donc, lorsqu'une norme européenne est reprise systématiquement par chacun des pays, l'idée est justement de disposer de règles communes, là aussi, pour faciliter le libre-échange au sein de l'espace européen. Cette règle de reprise systématique est obligatoire, n'est pas valable pour la normalisation internationale. Hein, donc, aujourd'hui, l'avenir, effectivement, de la normalisation française, on va dire, a quand même, on a encore quand même de nombreuses années à avoir devant nous, parce que on aura toujours besoin de normes françaises, ne serait-ce que pour préparer la normalisation européenne et internationale de demain. Hein, et c'est vrai que lorsqu'on veut influencer notre approche, notre culture, notre technologie, on a besoin effectivement, dans certains cas, de préparer au préalable des normes françaises qui permettent de formaliser, de décrire un savoir-faire français.
Est-ce que le cours des définitions d'une norme est totalement indépendant du cours de la politique et des enjeux de société à un moment T?
Alors, ça dépend en fait les cas. C'est vrai que les normes peuvent être définies et élaborées lorsqu'il s'agit effectivement, lorsqu'on a une pratique, une évolution, un mode de management qui commence, je dirais, à s'instaurer dans nos entreprises, où donc effectivement la norme à ce niveau-là permet de faire état de ce qu'on observe à un instant T. Ou alors la norme peut être en amont, peut être effectivement une manière de faire passer des idées novatrices. La normalisation, c'est avant tout un processus volontaire, ça c'est très important, collectif, où on vise à partager, à mettre en commun une vision, des bonnes pratiques, une évolution observée. Par exemple, les normes qu'on a élaborées dans le domaine des parcs acrobranches. Hein. C'est-à-dire, on est dans le domaine du loisir, les parcs acrobranches...
Il y a eu un boom, là, ces quelques dernières années.
Voilà, il y a un boom qui est constaté. Et c'est vrai que par rapport à ce type d'activité, il y a des risques. Hein, il y a des risques quand même d'accidents qui sont non négligeables par rapport à un matériel qui peut être défectueux, par rapport à une installation qui peut être là aussi mal maîtrisée, puis aussi par rapport à un encadrement. Hein. Donc là, on va dire, la norme a pour objectif de prévenir hein, des situations dangereuses. Et donc, on a défini, je dirais, c'est là aussi des caractéristiques sécurité par rapport à ce type d'activité. Bon, et par rapport à l'autre exemple, où on essaie de réfléchir sur un peu les tendances de demain, ben, je citais tout à l'heure le développement durable. C'est un concept qui a été un peu galvaudé, qui a été fortement médiatisé, fortement politisé. Et donc là, en fait, aujourd'hui, ben, si le développement durable n'est pas imposé dans les entreprises, il le sera à terme, parce que c'est l'évolution de la société qui fait que chaque entreprise aura une responsabilité.
Alors, la normalisation du développement durable, vraiment, ça m'interpelle très, très, très fort. J'étais en train de penser, en écoutant Stéphane Mathieu, que quand on dit normalisation, on dit aussi évaluation. Et d'un coup, il y avait plein de choses qui me revenaient à l'esprit sur toutes les réflexions portées sur l'éducation nationale, notamment sur la formation continue. Et je trouve ça très, très inquiétant. En plus, quand j'entends que le développement durable aurait été hyper médiatisé, hyper politisé, on sent tout de suite qu'on est dans un discours politique très... très fort, hein, très, très, très marqué idéologiquement. Alors, on va revenir un peu à cette histoire du libre, parce qu'on disait précisément hors micro tout à l'heure que c'est quelque chose qui n'est pas récupérable, c'est un mouvement qui a une idéologie forte, mais qui, de par sa structuration, par son mode d'action, est complexe à prendre en main.
En fait, pour réagir aussi à ce qui s'est dit, je pense qu'il y a quelque chose moi, qui me fait réagir, c'est le niveau de déresponsabilisation qu'il y a derrière tout ce discours. Et une des problématiques, une des questions qui se posent, c'est la normalisation, d'accord, mais qui fait la normalisation et pourquoi est faite la normalisation. Et derrière, il y a tout ce sens de, en fait, le peuple, la population, les gens sont des enfants qu'il va falloir cadrer parce que ça va être dangereux s'ils peuvent se blesser. S'ils font quelque chose de mal. Donc il faut normaliser tout pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que d'abord on puisse les encadrer, ils puissent consommer sainement et qu'en plus ils ne se posent plus la question de la responsabilité. Et, voilà. Et donc il y a ce terrain-là qui est extrêmement fort.
Tout à fait.
Après, par rapport au libre, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. C'est un engagement autour de responsabilités communes. C'est justement, il n'y a pas de définition de norme dans le libre du tout. C'est-à-dire que après, ça dépend sur quel niveau on parle aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein, ça traverse les cadres. Parce que là, quand on parle de normes, on parle aussi de cadres. C'est-à-dire, c'est des cadres précis. Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est le domaine des loisirs, etc., etc. Et est-ce que c'est le domaine de l'échange, etc. Et donc, chaque cadre a ses propres normes. Là, dans le libre, en fait, ça croise énormément les différents cadres. Donc, du coup, on peut passer des semences, par exemple, à la question du logiciel, en passant par la question d'une œuvre, ou en passant par un travail qui va être un travail documentaire, ou un travail écrit, un papier, etc. Après, je pense qu'il y a tout ce rapport, si tu veux, qui fait que les choses sont liées à travers les cadres, justement, les cadres normés, et qui va au-delà d'un domaine. Ça, je pense, c'est aussi la construction que le libre est en train de mener et en train de développer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives sur un terrain, le terrain de la consommation, du produit, etc. Tu penses pouvoir toucher quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, tu vas utiliser du libre, une entreprise va utiliser du libre pour faire un produit. Très bien, mais en fait, ils vont toucher 10% de ce que c'est le libre. Tu vois, donc on aura l'impression qu'ils vont dire oui, là, c'est le libre, etc. Et en fait, ils vont pas se réapproprier parce que l'intérêt du libre, c'est que ça soit fait par les gens. Donc, si tu veux, il y a une auto-responsabilisation qui est hyper importante et une définition, donc c'est ça aussi que je veux dire, une définition par les personnes qui créent eux-mêmes ou les personnes qui participent au mouvement ou au logiciel, etc., etc., de ce que c'est la norme. Donc, c'est leur propre norme. Donc, du coup, c'est pas une norme qui leur est imposée. Et puis, la norme d'une personne à une autre, si elle commence à réfléchir à ça, sa propre norme, c'est radicalement différent de celle de l'autre. Et du coup, ça engage du débat, ça engage la discussion. Donc, on est aussi sur ce rapport-là. Et là, on voit bien la différence, justement, la manière dont lui s'avance là-dedans, enfin, par rapport à toute cette institution de la norme, comment il y a une branche comme ça, une espèce d'élite qui va définir les normes à un niveau national, européen, international, etc. Et que ça vient du haut, encore une fois, pour aller vers le bas. Et bon, on est déresponsabilisé. C'est pour ça qu'on retrouve des gens après qui se sentent plus concernés en fait par les problèmes politiques, par les problèmes de la société, parce qu'ils sont complètement en dehors. On les pousse à être en dehors.
On est infantilisé.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et cette auto-responsabilisation, elle passe par ce partage. C'est quelque chose qui est aussi également précieux dans ce mode de pensée et de travail. Mmh. Elle passe par le partage, la diffusion de savoir, de connaissances, par la démystification aussi, des fois, de certaines technologies. Tu disais que tu préférais au mot révolution le mot mutation.
Oui, ben. Bon, après, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a effectivement le revenir à un mode de transmission, qui soit un mode de transmission, je dirais, de l'ordre de la pratique et pas de l'ordre d'un savoir imposé justement par une élite ou par un groupe de personnes, comme l'éducation peut l'être ici, par exemple, en France. Mais quelque chose qui se transmet par « tiens, j'ai pratiqué ça, voici mon expérience, je te la donne, tu en feras la tienne ». Et là, on voit le sens, les gens voient le sens d'une transmission ou d'un partage, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu dis « Ah oui, moi, je peux le voir autrement ». Tout à fait, et on peut en discuter. Donc, c'est bon, par rapport à l'éducation, c'est un autre champ. Après, sur la question de la mutation et de la révolution, en fait, c'est une réflexion qui est apparue aussi à force de travailler dans les domaines militants depuis plusieurs années, etc., et de travailler aujourd'hui dans le champ dit « altermondialiste », qui propose une alternative donc aux mondialisations. c'est aussi le constat que les théories et les idéologies de révolution sont aujourd'hui sont arrivent à leur fin et sont non, ne décollent plus, je dirais, dans leur mode de travail avec les problèmes de la société actuelle. Et c'est pour ça que tous les partis et tous les syndicats aujourd'hui sont complètement d'extrême gauche, sont complètement en manque d'idées. Et c'est aussi parce que c'est la manière de voir la conception de la société est complètement à changer et qu'on peut plus être sur les mêmes cadres de pensée de comment changer cette société-là. Et le libre permet, je dirais, d'amorcer une réflexion. J'ai bien d'amorcé parce qu'on est en train.
C'est une dynamique.
Voilà, c'est en train de se monter. C'est pas quelque chose de fini et il faut pas que ça le soit. Et cette réflexion apparaît aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, on ne va plus faire tabula rasa et amener un nouveau système et qui va passer par quelque chose qu'on va forcer pendant X années pour arriver au bonheur. Enfin, voilà, j'exagère un peu parce que bon, il y avait aussi d'autres choses derrière ça. Mais ça va être plutôt comment, voilà, ici on a quelque chose qui est défini, qui est qui fonctionne de cette manière-là. Qui nous est imposé, comment cette chose-là, on va la changer à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, et en même temps la contourner. Donc c'est une position plus complexe, c'est-à-dire qu'on va y injecter des choses, comme la mondialisation et le système capitaliste a bien compris comment récupérer toutes les idéologies, etc., d'extrême gauche, par la récupération, par l'infiltration et en changeant les termes, etc., en faisant la publicisant, ben, d'une certaine manière, c'est une méthode qui n'est pas similaire, mais qui va jouer le jeu de l'infiltration en disant « Très bien, ça, tu peux le changer, tu peux le doubler, et puis tu peux l'enlever ». Tu vois, c'est une méthode aussi de comment faire évoluer. C'est-à-dire que des gens qui vont être sur un terrain vont aussi être amenés à réfléchir sur cette idée du libre, parfois sur des terrains plus concrets. C'est-à-dire, bon, mais moi, ça me coûte tant, il m'arrive ça. Bon, très bien, oui, ça, voilà, tu as les logiciels libres qui vont peut-être t'aider. Mais en même temps, à partir du moment où tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire que tu commences à toucher au libre, il y a des questions que tu ne pourras pas éviter. Malgré toi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as des boîtes derrière qui vont dire « Mais attendez, et nous, il faut bien qu'on vive, alors comment ça se passe ?» Et puis à ce moment-là, il y a des discussions qui vont se passer, ça va commencer à débattre, je dirais. C'est là où on va pouvoir avoir... Bon, après, cette idée de mutation, il faudrait l'approfondir, à savoir qu'est-ce qui va muter, comment ça va muter et vers quoi on va aller. Ça, je dirais que c'est en ce moment en train de vivre et d'exister, d'expérimenter. Il faut le vivre, quoi. Ça, je n'ai pas encore de définition proprement dit, mais on commence à voir cette idée-là, quoi. Des gens qui commencent à se poser des questions de la propriété, qui sont totalement dans le monde propriétaire et qui vivent avec, et qui commencent, à partir du moment où on touche dans certains des domaines au libre, qui commencent à se poser la question de... par d'autres biais, de « tiens, pourquoi ça ne serait pas partageable, pourquoi ça ne serait pas libre ?»
Alors justement, une proposition de mutation, c'est Marc Voiry qui est allé nous la pêcher. Il s'appelle Joël Hubeau.
Je voudrais l'oiseau, la fourmi, l'éléphant, le mulet, la baleine. Je voudrais ramper comme un serpent et je voudrais mille pattes, un ténia, une tortue ninja. Et je voudrais des relations avec les morts. Et je voudrais téléphoner dans le passé. Et je voudrais une bande magnétique qui remonte le temps. Et je voudrais me transformer comme les têtards et comme les chenilles. Et je voudrais une mouche. Et je voudrais un putain de dessin de mouche. Et je voudrais plein de mouches. Et je voudrais un pullulement. Et je voudrais un pullulement dans le futur. Et même un virus. Même une amibe. Je voudrais manger, mastiquer, aspirer, avaler le vide. Et je voudrais lécher, écouter, et goûter les codes-barres. Et je voudrais lécher comme on goûte, écouter comme on lâche. Et je voudrais apprécier la saveur d'une carte à puce, le goût aigre des transistors et le glacis du Pepsi. Et je voudrais mâcher une ovule et manger toutes les couleurs. Et je voudrais manger toutes les couleurs. Et je voudrais boire, un liquide géométrique cul sec. Et je voudrais sentir la merde. Je voudrais sentir la merde couler dans la trachée et aussi entendre la digestion. Et je voudrais sucer. Et je voudrais sucer un météore et mordre, et mordre, et mordre. Et toucher la viande à pleine main, et mordre à pleine main. Et je voudrais ruminer aussi des bouquets de bégonia et de violettes et de glaïeul rose. Et je têterais une glande. Et je lécherai, et je laperai, et je têterai, et je laperai une flaque. une soupe d'extasie. Et je ferai fondre des tessons entre mes lèvres. Et je soupeserai chaque objet. Et je pourrai baver avec la lingerie fine sur la langue. Et en bavant, je voudrais entendre le bruit des cieux en apesanteur. Et en bavant, je voudrais écouter les mains qui se répandent. Et en glissant, et je voudrais entendre m'aîner. Et mes nez écouteront mes mains. Et mes nez sentiront l'odeur de la vitesse des doigts qui galopent. Et mes nez sentiront l'odeur de la vitesse des doigts qui galopent. Et je pourrai flairer les gisements d'or et l'héroïne et humer toutes les saloperies chimiques. Et je voudrais vachement de vaches. Et je voudrais vachement de transplantation. Et je voudrais des prothèses. Et je voudrais une disquette d'extension avec des cornes pour les ondes. Et je voudrais des ondes à cornes, et je voudrais une sonnette au bout de la queue, et je voudrais une queue à cornes, et je voudrais plusieurs queues, et des queues courtes, et des queues en tire-bouchon, et des longues queues fouineuses, et des queues, et des milliers de queues, et je voudrais un troisième œil pour la quatrième dimension, et je voudrais être communicatif, et je voudrais être relationnel, et je voudrais des centaines d'orifices, et des branchies, et je voudrais des ovaires, et je voudrais des vulves, et je voudrais plein de vulves, et je voudrais des vulves sous les bras, et dans les oreilles, et je voudrais des nichons dans le dos, et des couilles, et des abats de couilles artificiels, et une dizaine de bites, et je voudrais plein de bites, et de 24 bras, et j'ai besoin de 36 jambes, et de plusieurs nombrils pour me décentrer. Et j'ai besoin d'une douzaine d'oreilles, et d'un tas de nez, et de milliers de langues, avec des langues, et des bouches qui s'ouvrent, et des bouches dans la peau spontanément, avec des papilles, des glottes, et des cils, et des flagelles, et des clitoris, et des griffes, et des pattes, et des ventouses, et des tentacules, et des pinces, et des siphons, et des rectums, et des noyaux, et des prépuces, et des tétons, et des bras articulés, et des dents pneumatiques, et des langues fourchues, et des doigts crochus, et des yeux globuleux, parce que je voudrais être tactile avec la paupière, parce que je voudrais être tactile avec la barbe, parce que je voudrais être tactile avec le duvet des cuisses, avec les joues, avec les chevilles, avec les poils du nez.
Where is the line with you?
Alors, quelques rectifications pour commencer. Ce n'était pas Björk revisité par Joël Hubeau. C'était bien Björk. Toute seule, comme une grande.
Qui se revisite elle-même.
Voilà. Et c'était un petit clin d'œil à Marianne. Joël Hubeau suivi de Björk, donc. Et je retrouvais un texte que je vais vous lire rapidement. Tu veux le lire, Pascal ? Allez.
Ah, si tu veux. Juste
peut-être ce paragraphe. Qui faisait écho à ce qu'on venait d'entendre. Et on va y revenir parce que c'est une autre histoire tout de même.
Et après, on fait un grand débat. C'est le manifeste des mutants, donc, hein, que tu as trouvé sur Internet.
Oui, bien sûr.
Voilà. Nous aimons vivre, évoluer encore et toujours, plus vite et plus loin. Nous voulons devenir l'origine du futur, changer la vie au sens propre et non plus au sens figuré. Créer des espèces nouvelles, adopter les clones humains, sélectionner nos gamètes, sculpter le corps et l'esprit, apprivoiser nos germes, dévorer des festins transgéniques, faire don de nos cellules souches, voir les infrarouges, écouter les ultrasons, sentir les phéromores, cultiver nos gènes, remplacer nos neurones, faire l'amour dans l'espace, débattre avec des robots, tester des états cérébraux modifiés, faire des projets avec notre cerveau reptilien, pratiquer des clonages diversifiants vers l'infini, ajouter de nouveaux sens, vivre 20 ans ou 2 siècles, habiter la Lune, terraformer Mars, tutoyer les galaxies. Nous portons en nous le plus civilisé et le plus sauvage, le plus raffiné et le plus barbare, le plus complexe et le plus simple, le plus rationnel et le plus passionné. Tout s'est réuni un matin clair et la mortelle tiédeur des temps passés n'est plus qu'un mauvais souvenir.
Alors, c'est très troublant parce qu'autant tout à l'heure avec Joël Hubeau, le temps était donné. C'est un artiste qui fait des interventions comme ça, poétiques très fortes et avec toute la force, la puissance que ça peut avoir.
Et la poésie.
Et là, on est dans un texte qui, pour moi, est très étrange où se côtoie un ersatz de poésie et une volonté très claire de se transformer. Alors là, pour le coup, c'est la mutation Mutandis. On est dans la science-fiction totale, quoi.
Oui, c'est de la science-fiction, hein. C'est évident, c'est tous les thèmes de la science-fiction actuelle.
Tout à fait, c'est intéressant de dire que là on est dans tout à fait le libre, puisque ce texte lui-même est donc une mutation permanente. Il est d'ailleurs très probable que la version que vous venez de prendre connaissance ne soit pas sa version originale. Telle phrase inutile pourrait être supprimée, telle autre ajoutée. L'essentiel est de préserver l'idée. Vous pouvez le transformer comme vous voulez.
C'est tout à fait l'idée. Ouais.
Comment tu réagis, toi, par rapport à ça ? Parce que là, on a choisi un extrait qui n'est pas méchant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de délire de science-fiction. C'est les enfants de Star Trek, de je ne sais pas qui, de je ne sais pas d'où ils sortent. Mais comment tu perçois ces mouvements, toi, ces courants comme ça ? On évoquait les queers, on évoquait les trans, on évoquait aussi une artiste.
Orlan,
voilà, qui avait fait un travail très particulier. C'est des choses paradoxales parfois.
Alors il y a plusieurs niveaux, là encore une fois, il y a le domaine de la science-fiction. Moi je lis beaucoup de science-fiction, tous ces thèmes-là je les connais assez bien, ça peut être de Frank Herbert à tout un tas d'écrivains qui travaillent ce sujet-là ou qui ont travaillé ces sujets-là. Après il y a la dimension, je dirais... par rapport à cette idée de mutation, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a la mutation une volonté réelle de muter, mais par rapport à quelque chose où on ne se sent pas à l'aise dans son corps. Parce que là, il y a aussi des imaginaires derrière, mais il y a aussi une réalité de la mutation. Une réalité de la mutation, c'est le changement de sexe, tout simplement. C'est, bon, c'est quelque chose de très simple, mais c'est une mutation qui est importante à prendre en compte et qui est une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne se sent pas à l'aise dans son corps et on a envie d'en changer, tout simplement. Et aujourd'hui, avec les développements de la médecine, etc., de la technologie, on peut le faire. Donc, tout ça, c'est à la fois une réappropriation de possible. Parce qu'en même temps, la médecine, on en discutait, c'est aussi une horreur. C'est cacher la mort, cacher la laideur, les gens qui vont se transformer pour devenir plus beaux, plus belles, etc., se normer, etc., couper les bouts de graisse, monter la poitrine, etc., etc. Donc, c'est ça aussi. Hein. C'est la mutation aussi.
C'est ça. Il y a les exemples terribles en Chine, enfin en Asie, de ces jeunes femmes qui se font opérer pour être plus grandes, ressembler davantage à des modèles occidentaux.
Voilà, ouais, tout à fait.
Ou les Africaines qui se font blanchir la peau. Enfin,
oui, ben, y a plein d'exemples comme ça.
La norme occidentale.
Après, derrière, ce qu'il y a, ça aussi, c'est autre chose. Bon, on ne va peut-être pas en parler là, mais c'est aussi le marché autour des corps. Les yeux, toutes les greffes possibles, etc. Il y a un marché du sud vers le nord de récupération. Et ça, c'est aussi des traites qui ont été des thèmes qui ont été traités justement par Frank Herbert, sur la manière dont les usines à greffes, quoi, doivent créer des usines qui vont générer des bouts de corps. Après, c'est un thème énormément traité qui vont pouvoir être rapprochés par les plus riches pour pouvoir survivre et passer le temps. Après,
c'est horrible.
Oui, c'est horrible, mais en fait, on n'est pas très loin.
On n'est pas très loin.
Et même, je dirais, on n'a pas produit d'usine, mais il y a un marché énorme. Il y a un marché énorme de greffes des pays pauvres où on va chercher les greffes vers les riches. Quoi. Après, il y a d'autres domaines. Dedans, il y a quelque chose qui, moi, est très important. C'est effectivement un manifeste plus pour pouvoir gérer soi-même sa mutation. Moi, je l'entends comme ça plus, parce que par exemple, il y a justement sur la question du libre, il y a une énorme question qui est apparue il y a quelques années, c'est le brevetage du vivant par le maximum qui a été proposé, parce qu'après il y a des réalités, c'est le breveter en fait le génome humain.
Oui.
Donc en fait, toutes nos cellules ont un code. D'accord, c'est comme le code informatique qui révèle d'où vous venez, qui vous êtes, comment vous êtes formé, etc., etc. C'est le génome humain, quoi, l'ADN. Et ben, il y a un projet, il y a une grosse discussion dans le monde scientifique pour propriétariser, pour faire d'abord recenser tout le génome humain et ensuite le propriétariser, c'est-à-dire qu'il appartienne à des boîtes, etc., enfin, etc., etc. Donc là, ça produit un énorme débat au sein de la communauté scientifique, qui, forcément, il y a la moitié des scientifiques qui ne sont pas d'accord, mais il y a quand même une partie qui va vers ça. Et ça, c'est un extrême. Pour nous, humains, ça nous touche directement. Mais l'autre extrême, c'est ce qu'on bouffe. Il y a des variétés énormément d'animaux, des vaches, etc., qui sont des variétés qui ont été créées in vitro, en labo, qui sont des variétés modifiées, dont les ADN ont été modifiés exprès pour pouvoir produire plus de viande, etc. Donc il y a de la viande ou des choses qu'on mange qui ont été, bon, je ne parle pas des OGM effectivement, qui est aussi le truc évident, mais derrière, moi je parle plus du vivant en tant qu'animal par exemple, où on peut être beaucoup plus proche, malgré que ça soit les mêmes choses. Eh ben, il y a des animaux qu'on mange actuellement qui sont des mutants, créé par l'homme. Donc c'est des réalités en fait.
Et on dans parle l'intérêt réalité, de les breveter, de gagner de l'argent avec.
Exactement, ça c'est tout ce qu'il y a derrière. On parle toujours de ça derrière, c'est-à-dire derrière la mutation, derrière le contrôle de tout ça, il y a des boîtes qui propriétarisent, c'est clair.
Alors ben écoutez, comme c'est très très noir tout ça, je vous propose qu'on
finisse.
Mais non,
c'est pas noir. Justement, il y a le livre.
Justement, voilà. Justement, heureusement, il y a les artistes, il y a le livre. Heureusement, il y a des alternatives. Il y a des personnes qui travaillent, qui œuvrent à un autre monde en douceur. Et parmi eux, même s'ils nous le montrent très 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 violemment, ce monde, Pippo Del Bono, Caroline.
Alors, il nous montre un monde qui peut nous sembler autre ou différent pour nous, mais justement pour lui, qui est dans sa norme à lui, quoi, puisqu'il ne fait pas de différence entre des gens dits normaux et des gens dits handicapés. Pippo Del Bono est un homme de théâtre aujourd'hui, même s'il a rencontré le théâtre un peu par hasard et puis c'est devenu une nécessité. Par le théâtre, lui, il reprend la vie et il travaille sur des différents modes de vie. C'est ça qui l'intéresse de faire sur scène. Et il n'y a pas de différence entre la scène et la vie. Donc le théâtre continue, où la vie continue sur la scène, où le théâtre continue dans sa propre vie. Sa compagnie est composée de personnes atypiques qu'il a rencontrées dans sa vie, que ce soit dans la rue, dans un hôpital psychiatrique. Il a eu une vie assez tumultueuse, assez difficile. Il a été très malade, il a eu le sida, donc il a connu des périodes comme ça de maladie qui a fait qu'il a dû prendre des médicaments. Bon, il a côtoyé un monde qui peut nous sembler hors normes, enfin en tout cas pas dans notre quotidien. Et pour lui, le théâtre, c'est cette vie-là aussi, quoi. Et c'est aussi une façon de se ramener à la vie, mais d'en chercher une différente. Donc je vous propose de le rencontrer, puisqu'il nous raconte sa façon de travailler. Il nous raconte un peu sa compagnie, qui est composée donc d'un clochard, d'une personne avec des difficultés psychomoteurs, Bobo, qui est devenu un personnage fétiche. Et pour lui, ce sont presque nous qui sommes des fous.
Bah, c'est certain que dans l'image qu'il donne du monde dans ses représentations, voilà. C'est clair qu'après, je veux dire, tout s'annihile au profit de ce monde qui nous renvoie.
Et ces spectacles, que ce soit Guéra ou Jean de Plastique, à chaque fois, relatent une certaine vision de notre société aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose de le rencontrer. C'était une conférence qui avait lieu en 2004 au Théâtre de l'Olivier à Istres. Il était venu présenter une de ses pièces et il y avait eu une conférence sur art et handicap. Il exècre mettre en parallèle ces deux termes. Mais bon, il est souvent invité pour parler art et handicap.
Pipo Del Bono. Exclusion, oui. etc.
Pipo Del Bono.
Pour moi, en ce moment, nous sommes dans Jean de Plastique, le dernier spectacle. C'est très difficile voir, quelqu'un l'a dit, Bobo, Nelson et Gianluca, pour exemple. Bobo, il est un vieux très élégant avec un capatoio qu'il fume avec un bouquin comme ça. Gianluca, c'est la personne qui joue au football avec un ballon avec le public. Et les clochards, Nelson, il est la personne qui sert le thé, il parle très bien anglais. Alors, pour raison, les autres acteurs, qui sont des acteurs plus normaux, ils sont complètement fous. Et alors, pour raison, pour moi, en ce moment, je suis dans un moment que je trouve beaucoup, beaucoup plus de folie dans l'agent normal qui dans l'agent qui sont... Bon, c'est un peu particulier parce que peut-être nous sommes changés beaucoup parce que nous vivons un peu ensemble. Aussi, ce ne sont pas une commune, Afrique, mais... Et quand il termine la tournée, chacun y va à sa maison. Bobo, il vit encore dans ma maison. Maintenant, il est aussi à Paris, sa sœur, qu'il aime beaucoup Bobo. Il prend l'argent dans la compagnie, il prend la pension. Il dit, ah, mon frère, c'est la folie. Il veut seulement que son frère il reste là une semaine chaque année. Il dit, je dois seulement écouter la voix. Dans la voix, comprendre si c'est bien ou si c'est mal. Mais je suis, à ce moment, pour exemple, le spectacle Jean de Plastique, il parle beaucoup plus de la folie des personnes qui ne sont pas considérées normalement fous. Peut-être que c'est une situation que je trouve à ce moment-là. Vous connaissez peut-être en Italie, nous sommes un pays très fou. C'est très difficile. Je trouve que peut-être ici, vous êtes encore plus... Il y a plus l'art, la culture, mais l'Italie, c'est un pays qui est devenu très fou. Toutes les personnes, la politique, c'est devenu très important pour toutes les choses. La jeune, il te dit une chose, mais il pense à une autre chose. Il y a beaucoup de... Il est difficile parler, avoir des relations avec les personnes qui ont des pouvoirs, pour exemple. Pouvoir qui peut être pouvoir d'être directeur de théâtre, ou être seulement des personnes qui font l'organisation, non? Pour exemple, nous, dans mon compagnie, nous avons... Nous sommes des personnes qui travaillons ensemble, fous et pas fous, qui maintenant c'est difficile de faire la division, mais fous et pas fous, nous sommes, il y a Bobo 6 ans, mais après il y a des autres 12 ans, 13 ans, 18 ans, mais chaque 8 mois, nous change l'organisatrice en Italie, pour exemple. Parce que c'est plus difficile d'avoir des relations pour les personnes qui ne sont pas des... Non? Parce qu'il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup de folie. Il y a beaucoup de... C'est difficile regarder réellement avec les yeux. Pour nous, ils sont des choses qui se sont mal des paroles. Dans notre compagnie, il est devenu une règle que quand tu fais une tournée, quelqu'un il doit dormir avec Bobo, un autre doit dormir avec, doit penser à Nelson, parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire sur les scènes. Je pense qu'ils sont extraordinaires, mais dans la vie il y a beaucoup de problèmes. Ils sont pas, Bobo ne connaît rien de l'argent, il est analphabète, il a un cartel clinique terrible. Alors tout le temps il doit avoir quelqu'un qui reste à côté de lui. Et comme dans le spectacle, par exemple, tu ne peux pas faire seulement l'acteur ou l'actrice. Après, quand tu sors, tu dois penser à lui, tu dois penser qu'il doit changer le costume, tu dois penser... Et ces choses-là, il est devenu pour nous une grande, grande occasion de rester un peu plus... je ne sais pas. Beaucoup de temps, quand nous sommes aussi en France, hein, nous arrivons dans un théâtre et tu dis, ah, là sont les acteurs, ils se reconnaissent très bien. Après, les techniciens, tu reconnais très bien. Mais dans mon compagnie, c'est plus difficile. Je dis que c'est beaucoup plus difficile de reconnaître les acteurs, les techniciens, parce qu'il y a... Et je pense que ça, il est devenu pour nous une question... Le théâtre, il a besoin d'humanité. Parce que je pense que le théâtre, les risques du théâtre, que aussi si tu vas parler de grands thèmes, de la grand thème, de la guerre, de la violence, de l'amour, Shakespeare, il y a tout le poète, il a écrit tout, mais le théâtre, il est devenu une loi très bourgeoise. C'est le lieu quelquefois plus bourgeoise qu'il existe, aussi en France, excuse-moi, je pense un peu. Et, parce que maintenant on nous connaît. Aussi, si tu fais aussi sur le théâtre, il toque des thèmes d'humanité, blablabla, blablabla, tout le temps tu écoutes quelque chose qui ne marche pas. Tu dis, bon, tu l'es juste, tu sommes de gauche, tu es parfaite, mais en même temps, il y a quelque chose que tu dis, bon. Alors, par exemple, je pense que pour nous, c'est une grande occasion pour les personnes, pour les acteurs, de travailler beaucoup d'années avec des personnes qui proviennent d'autres lieux, d'autres langages, parce que pour ces choses-là, peut-être nous sommes restés plus à côté de la vie. Nous avons moins perdu la dimension de l'humain. Parce que là, notre vie, ce n'est pas seulement être sur la scène, mais c'est penser à beaucoup d'autres choses. Alors je pense que le théâtre, si tu dois donner de l'humanité, tu dois vivre dans toi-même cette humanité-là. Sinon, il devient un peu... une chose pas vraie. Et je sens beaucoup ces choses-là, en ce moment. Non? Et voilà, mais bon, je ne sais pas, c'est fini.
C'est fini, Pipo Del Bonon, sur nos ondes et dans cette dernière émission de l'année Échelle 1. C'est fini pour cette année. On se retrouve donc le dernier samedi du mois à partir de 2007. Alors, merci encore Julien Otavi d'avoir participé à cette émission sur la norme. On peut te demander tes résolutions ou tes vœux pour l'année à venir ? On espère que tu seras entendu et que tout le monde suivra. Tu peux donner le nom de ton site sur lequel on peut retrouver ton travail Voilà, www.apo33, si j'ai bien compris. Parce que moi, les adresses internet, je suis pas très forte. Hein. Sinon, après, tout va bien. Merci, merci infiniment. Caroline, un dernier mot pour la fin d'année. Qu'est-ce que tu nous souhaites ? Merci. Et Pascal, c'est formidable, vraiment.
C'est le cri du poumon.
C'est le cri du poumon.
Un peu encrassé en ce moment. Mais il sera beaucoup mieux l'année
ça
prochaine.
Ça ira mieux l'année prochaine.
Ouais, ça ira mieux. Eh ben... grâce aux nouvelles technologies.
Merci infiniment. Tu vas le faire changer, c'est ça ?
Ouais.
Merci infiniment, Pascal, Caroline, Marc, Xavier. Merci à Djilali à la réalisation. À très, 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 très bientôt. Bonne fin d'année. Bon boudin, comme on dit ici. C'est pas beau du tout. Mais ma foi, on ne se souhaite pas encore la bonne et future année. Ciao. Dee 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 d